Les Nuits de France Culture, la deuxième nuit des feuilletons. Et quel feuilleton? L'intégrale de l'adaptation radiophonique du roman de Michel Zévaco, Les Pardaillans. Michel Zévaco et Les Pardaillans que Luce Roudier nous a présenté en début de nuit. Puis une évocation de l'œuvre pléthorique et feuilletonesque, comme il se doit, de Paul Féval, l'auteur du Bossu, des Mystères de Londres, etc., etc. Évocation par Félicité de Rivasson, et puis 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne, les 5 premiers épisodes, et à l'instant le premier épisode du Juif errant. Bonsoir Marie Palevska.
Bonsoir Philippe Garbi.
Alors, Luce Roudier, Félicité de Rivasson, et puis vous, vous passez après Michel Zévaco et après Paul Féval, c'est peut-être plus difficile parce que finalement, l'homme dont vous allez nous parler et auquel vous êtes intéressé d'un point de vue universitaire et j'imagine d'un point de vue de petite lectrice, enfant ou adolescente, enfin, vous allez nous le dire, est beaucoup moins connu. Paul Dyvoye.
Oui, c'est vrai, et je vous remercie beaucoup de cette occasion de parler de lui et de le faire connaître, parce que, à mon avis, Paul Dyvoye, qui a été éclipsé par Jules Verne, est très injustement oublié aujourd'hui.
Mais il est oublié, mais son roman, l'un de ses romans les plus connus, lui, alors vraiment, donne ça, voilà, lui permet d'être célèbre au-delà, oui. Au-delà de la mort.
Oui,
le titre.
Donc les 5 sous de la Varède, effectivement, voilà. Ont eu une fortune tout à fait particulière. Et le nom de la Varède reste encore d'ailleurs dans les mémoires, alors que celui de Paul Dyvoye est peut-être plus oublié.
Alors après cet entretien, Marie Palevska, on pourra entendre donc les deux premiers épisodes des 5 sous de la Varède de Paul Dyvoye et Henri Chabria quand même, faut pas oublier.
Oui.
Ils étaient deux à écrire
ce roman-là. C'est vrai, c'était deux amis, mais Henri Chabria est mort plus de 6 mois avant le début de la publication des 5 sous de la Varède dans le Petit Journal. Et on peut penser qu'il a surtout offert à Paul Dyvoye l'appui de son nom pour lui ouvrir les colonnes du journal. Mais ils étaient quand même amis, les ayants droit touchent des droits sur la publication des 5 sous de la Varède ou les adaptations qui ont suivi. Voilà, on peut penser qu'il a quand même collaboré à l'écriture de ce roman. Et le personnage de la Varède lui ressemble aussi par certains côtés. Peut-être un hommage ici que Paul Dyvoye a voulu rendre à son ami.
Alors je parlais d'œuvres de travail universitaire. Vous avez consacré une thèse il y a 5 ans.
Oui.
Quel était le titre, l'intitulé exact,
oui.
Marie Palevska?
Alors elle s'intitulait « Un romancier d'aventure à la belle époque, Paul Dyvoye et ses voyages excentriques ». Donc c'est une thèse que j'ai réalisée sous la direction de Daniel Compère à l'université de Paris 3 Sorbonne. Et le président du jury était Jean-Yves Tadier. Voilà.
Je dis qu'on a reçu le mois dernier pour sa nuit rêvée.
Oui, ce sont deux professeurs qui m'ont vraiment encouragée dans mes études sur Paul Dyvoye.
Je crois que Jean-Yves Tadier d'ailleurs a préfacé le vicomte de Bragelonne.
Oui, tout à fait.
Voilà, c'est
oui,
ça. Hein,
et
vous-même, vous avez
de Dumas.
Voilà, vous avez préfacé également et édité Marie Palevska un roman d'Alexandre Dumas.
Oui, donc il s'agit des 45 qui sont parus dans la collection Folio Classique au mois de juin dernier, et c'est un roman très intéressant, c'est le dernier volet de la trilogie des Valois, après La Reine Margot et La Dame de Montsoreau. C'est un roman beaucoup moins connu, jugé inachevé, et qu'il est intéressant de redécouvrir aussi aujourd'hui.
Avec un certain personnage qui s'appelle Chico.
Oui, tout à fait, le bouffon du roi, très spirituel, très intéressant.
Personne qui a existé, dont on a entendu d'ailleurs dans quelques épisodes du Balafré, lors de la précédente Nuit des Feuilletons. Il était dans ce roman, et donc dans ce feuilleton radiophonique. Mais bon, revenons, Marie Palevska, à Paul Dyvoye, puisque c'est lui, avec ses incursions géographiques très très loin de l'Europe, et ses incursions aussi littéraires, parce que il a une manière d'écrire quand même qui, j'espère, vous a intéressé.
Enfin, vous n'êtes pas... tout à fait. La première peut-être séduction de Paul Dyvoye, c'est son style enlevé, sa verve, son enthousiasme qui nous lance dans toutes sortes d'aventures pleines de rebondissements. Et c'est une écriture qui est de bonne tenue. Il est nourri toute sa culture classique. On sent qu'il maîtrise les humanités. Et voilà, son style s'en ressent. C'est aussi un style qui est très lié au théâtre. Il y a beaucoup de dialogues, ça le rend aussi vivant.
Et puis, il y a aussi l'incursion dans c'est dans le fantastique.
Oui, alors, c'est léger, le fantastique. Ce qui va plutôt dominer chez Paul Dyvoye, c'est ce qu'on pourrait appeler l'anticipation scientifique, c'est-à-dire le rêve à partir d'inventions scientifiques contemporaines, de progrès techniques dont il est témoin, et il va extrapoler à partir des possibilités de la science.
C'est Vernier,
inventer...
ça, alors. Comme...
Oui, voilà, tout à fait. Donc, il s'inscrit dans cette recette initiée par Jules Verne pour développer des voyages exotiques et des romans où interviennent un certain nombre de machines extraordinaires.
Et vous l'avez découvert à quel âge? Parce que vous n'allez pas échapper à cette question que j'ai posée à toutes les doctorantes précédemment. Vous l'avez découvert parce qu'un professeur vous a dit à l'université, vous voudriez étudier, tiens, Paul Divoy qui est injustement oublié.
Non, en fait, j'étais moi-même adolescente lectrice de Paul Divoy. En fait, Paul Divoy est lu dans ma famille depuis 3 générations. Donc, mon grand-père et ma grand-mère paternelle ont lu Paul Divoy. Mon père et ses frères et sœurs ont lu Paul Divoy. Et certaines de mes sœurs et moi-même avons lu aussi Paul Divoy.
Alors, dans quelle collection?
Alors, nous les avons lus essentiellement dans les colonnes du Journal des Voyages, donc qui était un magazine, un grand magazine populaire de vulgarisation géographique à la fin du 19e. Il est créé en 1877 et jusqu'à la Première Guerre mondiale, pour sa grande époque. Et c'est un magazine donc qui publie des récits de voyage, des articles documentaires et aussi énormément de romans d'aventure.
En feuilleton.
Donc c'est ça. Feuilleton hebdomadaire.
Donc, enfant ou en petite fille ou adolescente, vous avez lu vraiment en feuilleton Paul Divoy.
Alors c'est biaisé parce que moi j'avais toute l'édition du volume forcément. J'avais l'année 1910 à ma disposition complète. Donc je lisais comme un roman de façon suivie quand même. Je n'attendais pas comme les lecteurs de l'époque chaque semaine la suite ou chaque jour dans d'autres quotidiens.
Mais c'est dit, ça doit jouer quand même, l'odeur du papier est différente.
Oui, tout à fait. Oui, donc ça.
La typographie
papier,
aussi.
Pas de mauvaise qualité à l'époque, hein, il faut dire, qui s'effrite beaucoup, il fallait en prendre soin. Un papier très très fin, jauni.
Et puis
une typographie, c'est vrai que c'est très serré. Sur 3 colonnes, le texte se présente sur 3 colonnes. Mais la grande séduction du Journal des Voyages, c'est toutes ces illustrations qui accompagnent les articles et les romans. Mais avec des couvertures superbes aussi, sensationnelles. Qui, à la veille de 1914, deviennent en couleur. Donc, voilà.
Mais ça a été repris en volume. Les 21 romans, par exemple, les voyages excentriques, ont été repris en volume.
Oui.
C'était chez Furne, je crois.
Oui, c'est ça. Alors, ce qui paraissait dans le Journal des Voyages, c'est une sorte de première version. Et ensuite, donc, les 21 volumes sont parus chez l'ancienne librairie Furne, qui était spécialisée dans l'édition de beaux livres illustrés au 19e siècle, et puis qui s'est tournée vers l'édition pour la jeunesse à la fin du 19e siècle. Et chaque année, pour les étrennes, donc en fin d'année civile, sortait un nouveau Paul Divoy dans un superbe cartonnage, les cartonnages en toile rouge à tranches dorées, avec un beau premier plat illustré et une illustration qui était à chaque fois différente.
C'était aussi des prix pour les bons élèves.
Oui.
De fin d'année, non ?
Paul Divoy a été aussi pris, en particulier prix de la ville de Paris. Et il était recommandé par le ministère de l'Instruction publique dans ses bulletins administratifs. On en trouve des notations. Oui, il était conseillé dans les bibliothèques scolaires, donc comme prix. Et puis, il constituait un beau livre d'étrennes aussi.
Alors, je vous provoquais, Marie Palewska, bien volontiers. Vous allez répondre bien volontiers, peut-être. Ce n'est pas un sous Jules Verne.
Ah non, certainement pas. Bien que je crois que dans certaines familles, Jules Verne avait le droit de citer, mais pas Paul Divoy, qui était jugé trop fantaisiste. Alors que Jules Verne, là, c'était du solide et du sérieux, avec des développements scientifiques de qualité. Mais non, on peut pas dire que ce soit du sous-Jules Verne, parce que Paul Divoy a sa manière à lui, en fait. Par rapport à Jules Verne, il est souvent beaucoup plus en phase avec l'actualité immédiate. Et ça devait certainement séduire ses lecteurs contemporains. Il est très tourné vers tout ce qui est moderne en son temps. Il réagit tout de suite au début de l'aviation, par exemple, où chez lui, tout fonctionne à l'électricité. Il imagine un certain nombre de perfectionnements à partir vraiment de l'installation du règne de l'électricité. Donc, il a sa manière à lui. Et moi, je dois dire que personnellement, j'ai aimé certains romans de Jules Verne, mais Paul Divoy me séduisait bien davantage avec ses péripéties cambolesque, et puis ses héros aussi, plein de panache, ses héroïnes aussi, parce que ça, c'est une marque particulière de Paul Divoy. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles. Il était lu d'ailleurs par un lectorat féminin.
C'était donc des romans pour adolescents ?
Alors, c'est difficile de déterminer cela. Alors, dans la collection chez donc l'ancienne librairie Furne, donc c'est-à-dire qui devient Jouvet, Combet et Boivin, donc là, évidemment, c'est destiné à la jeunesse, hein, visiblement, comme cadeau d'étrennes pour la jeunesse. Mais en même temps, Paul d'Ivoire a été aussi publié dans le Petit Journal ou dans Le Matin, qui sont des quotidiens destinés à un lectorat adulte. Alors peut-être qu'à l'intérieur de la famille, un adolescent pouvait lire le feuilleton, mais on peut penser qu'il y a aussi tout un public adulte qui a eu accès aux romans de Paul d'Ivoire, en particulier aux 5 sous de la Varède.
Alors Paul d'Ivoire, né Paul de Leutre, les dates c'est oui. 1856-1915.
C'est ça.
Il a été journaliste.
Oui, alors il a écrit, il a commencé comme comme chroniqueur, comme journaliste, comme son père d'ailleurs, qui était célèbre pour ses chroniques dans le Courrier de Paris ou dans le Figaro.
Le même
donc
nom,
lui-même,
d'ailleurs.
Il a écrit des nouvelles à la main dans des journaux comme L'Événement ou comme Le Globe. Voilà, des petites chroniques sur la vie théâtrale aussi. Oui. Et puis, il s'est tourné vers le théâtre, comme beaucoup d'auteurs, de jeunes auteurs qui veulent se lancer dans la carrière littéraire. Donc, il a écrit en collaboration avec d'autres un certain nombre de vaudevilles dans les années 1880.
Le mari de ma femme.
Par exemple, le mari de ma femme.
Vous l'avez lu?
Oui, j'ai lu le mari de ma femme. Donc, c'est un vaudeville, hein, c'est une sorte de farce. Voilà. Et puis, ou le tigre de la rue Tronchet aussi, ouais. Avec un beau titre.
Qu'est-ce qui se passe dans le tigre de la rue Tronchet?
Ouh là, j'avoue que vous m'en demandez trop. Je ne sais même pas si j'avais eu accès au texte.
Votre famille vous interdisait peut-être, c'était peut-être alors, trop non, olé olé, non?
Ça, le théâtre n'était pas publié dans ce type de journaux. C'était des pièces qui étaient données sur scène.
Oui, hein, oui. Alors,
le mari de ma femme a été publié.
Et donc, il est question de... Ah oui, un vaudeville. Bon,
oui, c'est ça.
Les portes claquent, et
oui,
les amants sont dans le placard, etc.
Oui, voilà, c'est ça. C'est un peu le mari, la femme, l'amant, des substitutions.
Alors, les 21 volumes de la série, donc des voyages excentriques, vont paraître un par an pour les fêtes. Vous nous le dites, Marie Palevska, en tout cas après une parution dans le journal des voyages. Mais est-ce qu'il y avait dès le départ ce projet-là de tenir 21 volumes et d'aller un petit peu dans le monde entier, enfin surtout en Asie, dans l'Asie mystérieuse, ou est-ce que finalement c'est le succès du premier tome, et donc les 5 sous de la Varède, qui a déclenché cette, pour des raisons éditoriales, journalistiques, etc. Enfin,
oui, je pense qu'on peut dire ça, c'est le succès des 5 sous de la Varède qui vraiment lance Paul d'Ivoire dans cette carrière littéraire et dans ce type d'écriture, puisque dans les années qui précèdent, il s'essaye à d'autres genres. Il essaye un peu le roman historique avec les Juifs à travers les âges, par exemple, qui est un roman très original parce que l'auteur, il fait l'apologie des Juifs, alors qu'on est plutôt à une période de recrudescence de l'antisémitisme. Il essaye un peu du mélodrame aussi. Et c'est vraiment à partir du succès des 5 sous de la Varède dans le Petit Journal en 1893 que Paul d'Ivoire va être connu. Tout de suite, Jouvet lui propose de rééditer ce roman en volume. Donc c'est ce qui se fait. Ce sera le premier des voyages excentriques. Mais la collection n'est véritablement lancée que l'année qui suit, donc en 1895. Et à partir de là, Paul d'Ivoire s'engage à fournir un roman par an chez cet éditeur.
Mais il ne tire pas à la ligne le personnage de la Varède, parce que ça se termine, les 5 sous de la Varède, une fois le roman terminé, ça y est, tout est dit.
Alors non, tout n'est pas dit. Donc dans ces voyages excentriques, Paul d'Ivoire va constituer un certain nombre de cycles. Donc on va retrouver le personnage de la Varède dans 3 autres romans, qui sont Cousin de la Varède, Corsaire Triplex et La Capitaine Nilia. Et là, ses aventures et celle qui est devenue sa femme, donc l'anglaise Miss Aurette, vont être mêlées à celle de son cousin, qui fait lui aussi un tour du monde dans Cousin de la Varède, mais lui qui est plutôt un aventurier malgré lui. Et ensuite, on retrouve les deux cousins et leur compagne ensemble dans deux romans qui suivent. Il y aura encore 2 autres cycles dans les voyages excentriques. On va avoir un cycle autour du personnage de Cigale, qui apparaît dans le Docteur Mystère comme un gavroche, un jeune mousse dans la baie d'Audierne. Et on va le retrouver
en
Chine. Et puis ensuite dans Massiliac de Marseille et Les Semeurs de Glace, où il est encore... il intervient. Et puis on aura aussi le maître du drapeau bleu, donc Dotcan, qui dont les aventures s'étendent sur 3 romans.
Alors, je vous propose, Marie Palevska, de ne pas raconter les cinq sous de la Varède, puisque de toute manière, on va entendre les premiers épisodes. Et
c'est assez fidèle au roman.
Oui. mais en revanche, vous avez donné déjà quelques titres, parmi les 21 titres de ces voyages excentriques, donc de Paul Divoy. Alors, le premier, c'est Les cinq sous de la Varède. Le dernier, c'est Match de milliardaire. Donc, c'est vraiment, ça correspond. Le dernier paraît en 1916, donc c'est un an après la mort de Paul Divoy. Il y a le sergent Simplet à travers les colonies françaises. Alors là, est-ce qu'on est dans... Et puis alors, Corsaire triplex, vous l'avez dit, Jean Fanfare, Les semeurs de glace. Là, on est vraiment dans le fantastique, hein, quand même.
Ce sont des titres, des titres séduisants.
Millionnaire malgré lui. Le maître du drapeau bleu, vous l'avez dit. Miss Mousquetaire, TE2R. Enfin, ça, c'est des titres alléchants,
oui.
Mais qui racontent quoi ? Qui racontent les voyages d'un personnage français, j'imagine ?
Oui, alors pas seulement. Au début, le héros est très fréquemment un Français, pourvu de toutes les qualités que Paul Divoy veut inciter ses jeunes lecteurs à acquérir. Mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, Docteur Mystère, le héros est un hindou. Ou le maître du drapeau bleu, c'est un turkmène. Donc il y a aussi des héros de couleur qui vont lutter pour l'émancipation de leur peuple chez Paul Divoy. Le docteur Mystère essaie de libérer l'Inde de l'oppression anglaise. Le turkmène Dogtkan veut libérer l'Asie de toute installation étrangère, par exemple. Donc on suit tous ces personnages dans des aventures qui se déroulent sur tous les continents. On a un certain nombre de tours du monde, ou de tours. Donc les cinq sous de la Varède, c'est un tour du monde sans argent. C'est ça le défi à relever. Le sergent Simplet, c'est un tour par les colonies françaises. Donc là, c'est un ouvrage un peu particulier qui se fait vraiment le propagandiste de l'œuvre coloniale de la France. Et puis dans Cousin de la Varède, on va avoir un autre tour du monde aussi. Dans La course au radium, on a un tour du monde automobile. Donc on varie les genres. Dans le dernier des voyages excentriques, on a un tour du monde des prisons aussi. Et le héros, à chaque fois emprisonné, rencontre un gardien d'une partie du secret de sa naissance et de la fortune qu'il doit recouvrer.
Et vous, Marie Palevska, qui êtes devenue chartiste, vous avez fait
l'École
nationale des chartes, vous avez en tête ces 21 romans?
Alors, c'est tellement riche en rebondissements, en péripéties, qu'ils sont difficiles souvent à la fois à résumer et puis à mémoriser dans tous leurs détails. Mais j'en ai une certaine connaissance, je dirais.
Ah oui, il n'y a pas de piège, voilà. Je ne vais pas vous demander ce qui se passe au chapitre 3 tel roman. Mais simplement, est-ce qu'il y a des moments où vous vous dites, si vous les relisez, vous avez dû les relire quand même, adulte, vous dites ça, c'est un petit peu vieilli, ou ça, c'est quand même pas très très bien pensant, parce que ça se voulait édifiant. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi, vous dites que bon, les indigènes, voilà, on les respecte et ils veulent libérer leur peuple, etc. Mais parfois, c'est aussi quand même un regard très colonial de l'époque, quoi, sûr.
Oui, alors c'est vrai que je ne lis pas du tout les romans aujourd'hui de la même façon que je les lisais certainement adolescente, où j'étais prise par les aventures et par le charme des personnages. Donc, en étudiant ces romans, évidemment, ce qui m'a intéressée, c'est l'ancrage dans l'actualité de l'époque. Donc ce sont vraiment des romans qui épousent la belle époque, donc l'extrême fin du 19e et les premières années du 20e siècle jusqu'à la Grande Guerre. Et dans ces romans, on voit bien que Paul Divoy est complètement enthousiaste à la fois de toutes les possibilités offertes par les progrès techniques et aussi par la position de la France dans le monde, par la grandeur de la France à cette époque et cette France qui, notamment, est riche de son territoire colonial. Donc, il y a effectivement dans le sergent Simplet à travers les colonies françaises, il y a tout un discours de propagande colonialiste, c'est certain. Paul Divoy n'échappe pas à certains stéréotypes. Certains stéréotypes racistes. Il est assez dur envers les Noirs de Haïti, par exemple. Souvent, ça s'explique par la conjoncture de l'époque. par exemple, les Chinois dans Cigale en Chine sont vraiment complètement dénigrés parce que c'est le moment de la guerre des boxeurs. Voilà. Donc, Paul Divoy, on trouve ce genre de notation chez Paul Divoy, mais ça n'est jamais une condamnation définitive. Par exemple, dans Les ennemis de la France qu'il met en scène dans les romans, il y a toujours des personnages qui vont se ranger du côté français. Il y a toujours, par exemple, dans Cigale en Chine, l'intrigue se conclut sur un mariage entre un personnage français et une chinoise. Et ça, c'est quelques mois après la fin de la guerre. Donc il y a toujours comme ça une porte ouverte à la réconciliation. Voilà, un rêve d'harmonie universelle qui est à venir chez.
Et puis il y a surtout l'alternance des drames et de la comédie. Enfin, c'est quelqu'un qui sait, donner à espérer, à attendre, et puis l'alternance. De genre.
Qui varie les registres, oui, tout à fait. Dans le Docteur Mystère, il y a des pages extrêmement sombres, hein, puisque Docteur Mystère est un hindou dont toute la famille a été massacrée par les brahmanes, qui voulait l'empêcher de contribuer à l'émancipation du peuple et qui intriguait avec les Anglais. Donc il y a des pages extrêmement sombres, et puis il y a aussi des scènes de comédie tout à fait burlesques.
Loufoque.
Même parfois loufoque, effectivement. Dans Message du Mikado, par exemple, on a un ambassadeur japonais qui est envoyé pour porter un message à la reine de Madagascar pour que la reine accepte que les Japonais prennent position sur l'île et que ça serve leurs ambitions d'expansion dans l'océan Pacifique et l'océan Indien. Et donc cet ambassadeur est envoyé avec le message qui est dissimulé à l'encre sympathique dans un pantalon. Donc évidemment, ça donne lieu à toute une pantalonnade, hein, toutes sortes. Donc là, on est vraiment aussi dans des registres de farce. C'est l'excentrique, hein, là, qui prime.
Donc dans l'adaptation cinématographique de 1939 des 5 sous de la Varède, signé Maurice Camage, avec Fernandel, et bien, il y a du loufoque, et on va en témoigne la chanson qui s'appelle « C'est comme ça à Calcutta ».
On vit au pays des Indes, il faut savoir parler hindou. Et pour ne pas passer pour une dinde, on doit prendre la vie par le bon bout. Par Brahma, par Brahma, oh quelle drôle de coutume. Par Brahma, par Brahma, c'est comme ça à Calcutta. J'ai connu un vieux à barbiche qui voulait faire du cinéma. En tournant, il devint derviche. C'est comme ça que le derviche tourna. Par Brahma, par Brahma, oh quelle drôle de coutume. Par Brahma, par Brahma, c'est comme ça à Calcutta. Dans le pays, il y a les intouchables, c'est les gens qui n'ont pas de pognon. Mais en France, il y a leurs semblables, ce sont des chèques sans provision. Par Brahma, par Brahma, oh, quelle drôle de coutume. Par Brahma, par Brahma, mais oui, c'est comme ça à Calcutta.
C'est comme ça à Calcutta, Fernandel. On écouterait des heures cette chanson, qui doit faire 4-5 minutes, mais on va arrêter là. Marie Palevska, vous avez vu le film ?
Oui, j'ai vu le film. Personnellement, il ne me paraît pas bien rendre compte de l'atmosphère du roman de Paul Divoy, des 5 sous de la Varède. Le film avec Fernandel, évidemment, ça a assuré le succès du titre. Voilà. Mais c'est vraiment très tourné vers la farce, vers le loufoque, avec presque un anti-héros, ce que n'est pas du tout le Lavarette de Paul Divoy, qui est un jeune premier, pourvu de toutes les qualités.
C'est de course-poursuite, quoi, ce film de Maurice Camage, qui date de 1939.
Oui.
Mais c'est l'exotisme de pacotille. Et finalement, Paul Divoy, alors quand on écrit un roman à la fin du 19e siècle, et qu'on se rend dans l'Asie mystérieuse, dans la Chine cruelle, bien entendu, en Australie et ailleurs, Comment invente-t-on, parce que lui, il a jamais quitté la France, ou très peu, Paul Divoy, bien entendu.
Oui, il a apparemment fait un séjour jeune homme en Angleterre, mais on lui connaît très peu d'incursions à l'étranger, donc ses sources sont vraiment livresques. Il se sert de cartes, par exemple pour le Pékin de Sigal en Chine, il a une carte du service géographique de l'armée, tout à fait fouillée. Il se sert de guides de voyage, comme les Johann ou les Baedeker, qui avait du succès à l'époque. Il puise aussi dans les récits de voyage. Par exemple, dans les 5 sous de la Varède, on voit les personnages qui, au Tibet, marchent dans les traces de l'expédition de Gabriel Bonvalot qui a eu lieu quelques années auparavant. Et d'ailleurs, ils ont le même guide que Gabriel Bonvalot, ils ont le même Rachmed pour les entraîner dans ce périple. Il puise aussi dans la littérature romanesque, par exemple, pour l'Égypte qu'il met à l'honneur dans certains de ses romans, il va puiser dans le roman de la momie de Théophile Gautier. Voilà, pour l'Ouest américain, il va aller puiser chez Gabriel Ferry une part de son inspiration. Donc, ce sont vraiment des sources livresques qu'il utilise.
Et puis, l'imagination aussi, quand même.
Et puis, l'imagination, et puis aussi sa lecture de l'actualité. Voilà, des événements de l'actualité. Et puis après, évidemment, il se laisse entraîner par son imagination. Mais vous parliez d'un exotisme de pacotille.
Je parle du film.
Ah oui, d'accord. Parce que chez Paul Divoy, c'est pas mérité. Et d'ailleurs, le poète René Guy Cadou parle des romans de Paul Divoy comme justement des vecteurs de rêves, d'imagination poétique.
Et d'ailleurs, lui, il s'est dit peut-être un jour un bon romancier feuilletonesque, et puis journaliste aussi, qui connaissait un peu les grands succès des feuilletons dans la presse du 19e siècle qu'il avait précédé. Il s'est dit, bon, Paris, c'est mystère, c'est fait. Londres, et c'est mystère, c'est fait. Marseille, c'est mystère, c'est fait. Donc, quittons l'Europe.
Oui, c'est vraiment ce qui l'intéresse. Très peu de pages. Souvent, Paris, c'est un point de départ ou un point d'arrivée. Mais sinon, il y a vraiment très peu de pages et même très peu de lignes consacrées à la France ou à l'Europe. On a un tour des musées d'Europe, quand même, dans Jean Fanfare. Mais ensuite, vraiment, ce qui intéresse Paul Divoy, c'est l'ailleurs, les confins les plus mystérieux possibles. Il y a assez peu de romans qui se passent en Afrique, finalement. L'Égypte, mais l'Afrique, c'est plus déjà un terrain très inconnu au moment où il écrit. Et du coup, ce qui va plus l'intéresser, c'est l'Asie mystérieuse, l'Indonésie, où là, on a des peintures qui relèvent vraiment des mille et une nuits, presque, chez Paul Divoy. Et puis aussi, ce qui va l'intéresser, c'est l'Amérique du Nord, surtout dans les volumes qui précèdent la Grande Guerre, où là, au début de la collection, on a vraiment une alternance sur les continents. Donc on a l'Europe dans Jean Fanfare, et puis ensuite on va passer en Océanie avec Corsair Triplex, on passe en Égypte avec la capitaine Nilia, en Asie avec Mystère, Sigal en Chine. Donc ça paraît un peu étudié comme un plan qui se déroule là dans la collection. Et puis ensuite, vraiment les romans vont se partager entre l'Amérique du Nord et l'Asie.
Alors ça, c'est pour la géographie, Marie Palevska, mais donc on a parlé de la fantaisie scientifique.
Oui.
Il y a des armes aussi, non, qui sont inventées.
Oui, il y a des armes. Alors là aussi, sur les questions scientifiques, Paul Divoy est très ancré dans son époque. Donc par exemple, il va parler du radium dans ses romans. Il va imaginer un petit projecteur à radium dans le roman Millionnaire malgré lui. Et puis le radium va être très à l'honneur dans le roman La course au radium, où là, un bandit a confisqué tout le radium disponible sur la Terre parce que le radium permet de réaliser le rêve de l'alchimiste et permet de transformer des pierres sans valeur en pierres précieuses extraordinaires. Donc voilà un exemple. Il va utiliser les rayons X aussi, qui peuvent servir d'armes dans le Docteur Mystère, par exemple, où il utilise ces rayons qu'il propulse à l'aide de miroirs paraboliques.
Qu'est-ce que le téléphote ?
Et voilà, ça, et dans le docteur Mystère, oui. Donc on a, alors là on est dans les moyens de communication, donc on a un téléphote qui a d'ailleurs fasciné Marcel Dassault, qui a du coup baptisé Mystère l'un de ses avions. Donc ce téléphote, c'est un écran qui permet d'entendre une conversation à distance et de voir aussi une scène à distance. Donc c'est une sorte de webcam avant l'heure. Donc ça, il apparaît dans plusieurs romans aussi, avec des perfectionnements, donc on peut communiquer. Il imagine même un petit parleur sans fil, hein, il suffit de le piquer dans un poteau électrique, et on parle, et la parole est transmise jusqu'à un récepteur fixe qui a été installé évidemment auparavant, mais qui peut être à des kilomètres de là.
Bon, ça on comprend.
Donc, il y a toutes sortes de moyens de communication, des armes aussi.
Des tubes de couleurs, lumière colorée.
De lumière colorée, oui, dans les voleurs de foudre, où là, selon la couleur, on obtient un effet différent. Donc on peut cautériser une plaie, rafraîchir une atmosphère, ou alors brûler.
Et l'air liquide aussi doit servir.
Et il y a aussi l'air liquide. Alors ça aussi, qui montre vraiment l'ancrage de Paul d'Ivoix dans son temps. On le voit à l'honneur dans Les Semeurs de glace, hein, qui est publié en 1903. Et justement, Georges Claude vient d'étudier les constituants de l'air atmosphérique et de créer la société Air Liquide à ce moment-là. Et donc là, avec l'air liquide, Paul d'Ivoix exploite en fait la différence de température. Quand on libère l'air liquide, on peut avoir un froid de 200 degrés au-dessous de zéro. Et donc ça lui permet de congeler une rivière pour créer un pont de glace et faire passer
des troupes.
Ses personnages. Mmh. Voilà. Ou alors ça permet à un bandit de projeter des nuages d'acide carbonique liquide sur un paquebot, le Cyclopique, qui est inspiré du Titanic, et de, comme ça, tuer tous ces riches passagers pour pouvoir les dépouiller de leur fortune.
Les gilets hallucinatoires.
Oui, alors ça c'est une invention d'une jeune ingénieure dans les Dompteurs de l'Or, Miss May. Et là aussi c'est original parce que pour parler de Miss May, Paul d'Ivoix emploie le mot ingénieure avec un E à la fin, il féminise le nom. Et donc c'est cette jeune fille qui invente une sorte de juste au corps électrique, de côte de maille électrique qui permet de multiplier la puissance de la volonté et de provoquer des hallucinations chez autrui.
Alors quand on a lu tous ces romans, petite fille, Marie Palevska ou adolescente, comment s'en sort-on? Comme ça, on imagine le monde, un monde incroyable.
Oui, alors c'est vrai que dans ces romans, on puise l'évasion, hein, le dépaysement géographique, absolument. Aujourd'hui, le dépaysement temporel aussi, parce qu'on plonge vraiment dans une époque, donc dans cette belle époque, avec ses relations diplomatiques particulières, son actualité particulière, le discours aussi qui était tenu au public du temps et au jeune public en particulier, avec un certain nombre de valeurs morales qu'il faut mettre en avant.
Et on imagine vraiment que ce Paul d'Ivoix lisait beaucoup. Alors, est-ce qu'il y avait peut-être des gens qui travaillaient pour lui, qui lui faisaient des fiches, qui lisaient absolument toute la presse française et puis anglaise, américaine et internationale.
Il n'avait pas d'équipe derrière lui, mais
je ne soupçonne pas de faire écrire ses romans par d'autres.
Sa fille, donc il a eu deux enfants, Henri Paul d'Ivoix, qui a lui-même écrit un certain nombre de textes, des nouvelles, et qui est mort dans la Somme, malheureusement, mais qui a son nom inscrit au Panthéon parmi les écrivains morts pour la France. Et il a eu une fille, Paulette, qui l'a aidé dans son œuvre, selon le témoignage de sa petite fille que j'ai pu recueillir. Donc sa mère a contribué à l'œuvre de son père en l'aidant, peut-être en écrivant certains passages qu'il revoyait ensuite.
Alors votre thèse est à paraître, j'imagine?
Oui, elle est à paraître chez Champion.
Et elle a toujours pour le même titre qu'en début d'entretien, à savoir
un romancier d'aventure à la belle époque, Paul d'Ivoix et ses voyages excentriques.
Et puis si on veut en savoir plus sur Paul d'Ivoix, on peut lire Exploration de Paul d'Ivoix, c'est dans le dossier numéro 70 de la revue Le Rocambole, dossier que vous avez écrit, Marie Pavlovska. Eh bien, merci beaucoup.
Merci à vous.
Pour tout ce que vous nous avez dit sur Paul d'Ivoix, qu'on va essayer de trouver, non pas en librairie actuelle,
non, malheureusement, mais aujourd'hui, il n'est pas édité, voilà. Disponible en librairie, mais on le trouve en brocante. et j'espère qu'il pourra être republié.
Les 5 sous de la Varède à suivre, et puis les aventures de Tim et Toum, et puis la vie exemplaire de Louis-Dominique Cartouche, roi des voleurs. C'est ainsi que se poursuit et se termine cette deuxième nuit des feuilletons. Merci.
Merci beaucoup.